se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, les grandes gueules.
Y'a des morts à chaque saison, et j'ai trop de rêves en prison. On manque pas d'ambition.
On a décidé dans les GG de vous parler du crack parce qu'on a découvert là au fil des jours. Et si on a beaucoup focalisé sur le crack dans l'est de Paris, dans le nord de Paris, on a parlé de la colline du crack, du jardin des Halles, des riverains excédés. Bah, le crack et son extension, c'est pas une exclusivité parisienne.
Non, c'est le nouveau fléau des centres-villes et pas seulement à Paris, Bordeaux, Rennes, Compiègne, Niort, Mâcon, Orléans. Depuis maintenant plusieurs mois et pour certaines villes plusieurs années, eh bien, il y a une augmentation de la consommation de crack. Et alors, ce qui va avec le crack, c'est un problème de santé, bien entendu, parce que c'est une drogue. Et Lina en parlera mieux que moi, qui rend très dépendant. Et on a du mal à sortir les craqueurs, les craqueuses de cette dépendance. Mais c'est aussi, bien sûr, un problème d'insécurité, de violence, parce que pour se payer leur dose, les craqueurs, les craqueuses n'hésitent pas à s'en prendre aux riverains, aux gens qui passent par là. Donc, c'est au cœur de tout. Les incivilités et des problèmes de sécurité. Cette drogue du pauvre fait des ravages dans toute la France. Alors comment faire pour abattre justement cette drogue et essayer d'endiguer cette progression?
Alors, il faut expliquer déjà ce que c'est que le crack. C'est de la cocaïne avec de l'ammoniac ou du bicarbonate, oui. C'est ça?
Voilà, c'est ça, le crack, c'est ça.
Tu le fais brûler.
Tu le fais brûler dans du bicarbonate.
Ça vient des
États-Unis,
on dit crack parce que ça...
Ça craquelle.
Ça craquelle, c'est
voilà.
Pour ça.
Et c'est pas très cher.
Alors, c'est pas très cher justement parce que c'est de la cocaïne qui a été coupée avec plein de produits. Le crack, c'est j'ai envie de dire, c'est la coke du pauvre, mais celle qu'on sniffe, c'est la drogue du riche. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Et en fait,
je rappelle que tu as été
oui,
crack,
moi j'y étais.
Pendant combien de temps?
4-5 ans et j'en ai bavé pour arrêter, je peux vous dire. Mais en fait, la problématique qui existe par rapport au crack. Bon, dans les autres villes, il n'y a pas de camp comme à Paris. Et d'ailleurs, ce que j'ai regretté, c'est que Monsieur Darmanin, d'ailleurs j'adorerais qu'il vienne aux grandes gueules discuter de ça avec moi, c'est qu'il a fait croire à tout le monde que Porte de la Villette, Porte de la Pantin, Porte d'Aubervilliers, c'était réglé. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'ils sont tous sous le pont du périph' à Porte de la Chapelle. Et je peux vous assurer qu'à Porte de la Chapelle, ça chie. Voilà. Et qu'est-ce qui gêne dans le crack, au fond? Parce que la plupart sont des sans-abri. Ceux, parce qu'il y a aussi 15% qui, eux, ont un logement. Ceux-là, ils gênent pas les gens.
Ils sont chez eux, oui.
Et voilà, ils sont chez eux. Et en fait, qu'est-ce qui gêne? C'est que tous ces sans-abri qui prennent du crack, c'est vrai, ils foutent le bordel. Isère, ils deviennent violents. Moi, vous venez dans mon quartier, alors là, il y a ce qu'il faut. Hein. Bon, c'est vrai que par contre, j'ai vu qu'il y avait quand même plus de police. Mais comme je vous le dis, les CRS, je suis allé les voir. Les CRS, ils m'ont dit, nous, on protège les commerçants et les riverains. Bon, il y a quelqu'un qui fume une pipe. Alors apparemment, en France, on peut fumer du crack, hein, peinard. Hein. Par contre, vous buvez une bouteille, une canette d'alcool dans la rue, vous avez une amende. Non mais, il y a un truc qui tourne pas rond.
On laisse faire.
On laisse faire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la problématique, alors évidemment, il y a ce qu'on appelle les salles à moindre risque.
Les salles de shoot.
Voilà, alors évidemment, moi je travaille avec tous ces gens-là, mais il y a toujours une problématique, c'est que il y a toujours la problématique du dealer, puisque ces personnes qui vont dans des salles de soins, il faut qu'ils aient le produit. Pour avoir le produit, il faut avoir le dealer. Donc, en fait, c'est une histoire sans fin.
Donc,
quoi.
On favorise quand même
la
délinquance.
Pour moi, oui. Et alors, par contre, le seul truc qui est bien à travers ces salles de soins, évidemment, parce qu'il faut dire la vérité, c'est surtout des gens qui prennent de l'héroïne. Il y a très peu de craqueurs dans.
Mais pardon, mais le crack, comment on en sort, en fait? Parce qu'on voit bien qu'il faudrait à la fois soigner ces gens-là. Et puis ensuite, on réglerait le problème de la sécurité.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, on a le plus grand professeur qui a travaillé le premier sur le crack. Parce que d'où vient le crack en France ? À la base, c'est des Antilles. Mais comme aux Antilles, les Antilles en France, enfin en métropole, on s'en fout. Parce que je peux vous assurer, moi, qui ai eu la chance d'aller aux Antilles, grâce au professeur Charles-Nicolas Aimé, je vous dis, c'est lui qui a créé le centre Pierre-Nicole. Parce que moi, j'ai connu le crack à l'arrivée dans les années 90.
C'est lui qui t'a sorti du crack ?
Et c'est lui qui m'a soigné, qui a créé le centre Pierre-Nicole. Bon, à l'époque, il était psychiatre. Maintenant, il est devenu un grand professeur. Il travaille dans le monde entier. Et bien, en France, même les politiques, moi, je m'en fous que ce soit Macron, Pécresse, mais personne ne fait appel à lui. Alors, c'est le premier, et c'est un pro. Alors, moi, évidemment, je l'ai auditionné à la région dans le cadre de mon travail sur le crack. Mais voyez, on a des vraies tronches. Et vous savez, je l'ai auditionné et je lui ai parlé des salles de consommation là, oui, à moindre risque. Et lui, il est même pas d'accord. Il a dit, quand on a pris du crack, qu'on veut arrêter, il ne faut plus jamais en prendre.
Comment tu t'en es sorti?
Eh ben voilà, moi je m'en suis sorti, parce que faut savoir que le crack, alors je suis pas un psychiatre, en parlerait mieux que moi. En fait, il y a une espèce de sérotonine dans votre tête là qui vous fait un flash, vous croyez puissant, vous êtes capable de tout. Mais faut savoir que dans les antidépresseurs, que je prends toujours actuellement, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'il n'y a pas honte à se faire soigner. En fait, dans les antidépresseurs, il y a aussi de la sérotonine. On peut se soigner avec des antidépresseurs. Alors, évidemment.
Après, il y a une problématique, que ces gens-là sont aussi des SDF, c'est-à-dire
mais que. Mais c'est, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je travaille pour le logement d'abord.
Oh, mais moi, ce que je crois, c'est pourquoi ça s'étend.
Attends.
Pourquoi le crack s'étend aujourd'hui dans plein de villes et même dans des villes moyennes, a priori, où tu ne t'attends pas à le trouver.
D'abord, c'est pas cher.
Il y a Orléans, tu vois, Perpignan.
Il y a des gens qui prennent. Moi, j'excuse rien, j'essaie juste de me trouver des raisons, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui prennent des drogues pour oublier leur mort, et il y a des gens qui prennent des drogues pour oublier leur vie, quoi.
Leurs conditions de vie.
C'est aussi simple que ça, et que c'est la condition qui fait que le crack étant une drogue pas chère, dangereuse, parce qu'apparemment il y a une accoutumance immédiate, quasi. Bah,
immédiate, faut pas exagérer, hein. Ça c'est les journalistes qui aiment bien dire ça, mais on n'est pas addict dès la première prise, on est addict au fur et à mesure.
Quand tu as besoin d'échapper là où tu es, c'est que bon, il y a un problème, et
non,
là,
mais
je crois qu'il y a une situation de ces personnes qui fait
que au Paris, ouais, faut dire la vérité, moi quand il y a quelque chose de bien, en fait quand même à Paris, ils font un sacré boulot. Et du coup, les dealers, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se déplacent.
Ouais, bien sûr.
Et parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a quand même du boulot. Je peux pas le nier.
Donc les dealers vont en province.
Ben oui, ils se déplacent. Ils se disent, oh là là, Paris, ça commence à craindre. En plus, avec le Grand Paris, les Jeux Olympiques, on commence à... quand même, Darmanin, il a mis des moyens quand même. Je peux pas dire le contraire.
Que ce soit à Paris ou pas, on s'en fout. Hein, c'est le.
Oui, oui. Mais si tu veux, ben du coup, ils se déplacent. Voilà.
Thomas Porcher.
Ouais, il y avait un film, enfin une fiction, hein, sur le crack, qui s'appelait New Jack City à l'époque américaine. Je sais pas si tu t'en souviens, avec Wesley Snipes, film culte des années 80, avec Ice-T aussi, un rappeur. Enfin bon. Et je me souviens du début du film, ça m'avait marqué parce que je l'avais revu en rediffusion là. Au début, t'as les dealers qui se disent bon, c'est les années 80, les mesures de Reagan ont fait augmenter la précarité, il y a un gros marché de la drogue à développer, on va s'attaquer à une drogue du pauvre, le crack. C'est comme ça. Et donc là, moi, je pense qu'il y a plein de questionnements à avoir. Il y a, comme tu dis, là, Mourad, il y a une grosse partie des gens qui, leur vie.
Ça somme. C'est,
voilà. Et donc, ils ont besoin de. Et ça, partout où vous avez la misère qui augmente, vous avez une possibilité d'augmentation de la consommation de la drogue du pauvre. C'est pas pour rien que ça a commencé vraiment dans les dom-toms. Après, t'as la libre circulation en Europe qui fait que maintenant, alors là, tu peux aller te provisionner à peu près partout. Ça circule, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, etc. Puis la troisième question, c'est, sommes-nous préparés à ça? On a l'impression que, alors effectivement,
depuis les années 90,
les autorités, mais même effectivement les gens qui suivent ces gens-là, qui veulent casser la dépendance, enfin, est-ce qu'on est préparé à ça, tu vois, pour que le truc ne se développe pas? Et moi, j'ai l'impression que non, on attend que ça se développe massivement, et là, on intervient, on dit mince, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors qu'il faut aller à la source.
Oui, et puis il y a une question quand même, c'est est-ce qu'on traque les dealers? Parce que par exemple,
on les traque pas.
Voilà, c'est ça.
Attends, les CRS, je les vois. Hein. Moi, je les vois, les dealers. Moi, je les vois. Je connais même Tonton. Aussi, il m'entend.
C'est qui, Tonton?
Tonton, c'est un proxénétique.
Un proxénète. Et dealer de crack.
Par contre, je ne parle pas. Non, lui, il n'est que proxénète.
Ah, parce que
mais je vais vous dire la vérité. Au début, je rendais des services aux dealers.
C'est-à-dire?
Donc, Bah, je faisais la factrice, enfin bref.
Ah bon?
On oublie. Oui. Et de toute façon, c'est prescrit, j'ai plus de 50 ans. Hein. Et, mais après, les mecs, ils sont pas fous, tu deviens addict. Et puis, t'as pas de sous, faut pas oublier que je travaillais pas et tout. Après, faut faire des fellations et tout ça. Et le proxo, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des tentes partout, les tentes, elles servent qu'à ça. Tu veux ta dose? Tiens, va sous la tente.
Ah oui,
ah bah oui.
Donc c'est lié.
Faire une passe. Prostitution. Quoi, en fait.
Bah ouais, mais après, après tu déglingues. Vous savez, personne n'en parle. Mais il y a plein de, viols, il y a plein de morts qui se passent autour du crack. Mais personne n'en parle parce qu'on se dit, oh bah ils
oui,
ont.
Mais les dealers, ils sont souvent identifiés à Paris. On dit.
Mais
oui,
mais j'ai une capacité à se reproduire incroyable aussi.
Il y a les maudous, mais il y a pas que les maudous. Parce que il y a pas que les maudous. Mais moi, en tout cas, je les vois hein, les mecs. Voilà. Mais voilà. Alors peut-être que les flics ils se disent ouais mais c'est un petit dealer, nous on veut les gros. Mais
ils les attraper en flagrant délit.
Non mais attends, moi je les vois en flagrant délit. Alors d'abord me dire que les flics ils les voient pas. Hein.
Nous sommes avec William qui nous appelle des Alpes-Maritimes, qui veut intervenir dans la discussion. Bonjour William.
Bonjour.
Vous nous avez appelé parce que vous êtes polytoxicomane.
Oui, tout à fait. Bonjour Elena.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Porcher.
Bonjour.
Et bonjour Monsieur le sportif. voilà. Bonjour à vous. Et ouais, j'ai une longue vie donc de polytoxicomanie. Et ce sujet de crack, en vérité, c'est un faux sujet parce que il faut savoir qu'on tombe pas accro physiquement au crack comme à la MDMA, comme aux acides. Voilà, ce n'est que une dépendance psychologique.
Tout à fait.
Ni plus ni moins. Ah, Elena, merci.
C'est l'héroïne qui est la pire.
Mais pourquoi voilà. Parce que le crack, ça rend comment en fait le crack? Qu'est-ce que ça provoque crack, comme sensation?
Je vous explique comment le crack est né. Le crack est né parce que elle est tellement coupée, la couche, que vous avez un produit pur à 65%.
Que seuls les riches pouvaient se procurer.
Attends, exactement, comme nous sur la Côte d'Azur. Elle venait d'Italie. Hein. Et pour la purifier, donc vous la passez à l'ammoniaque, et c'est ça qui vous flingue le cerveau. Votre corps fabrique de l'ammoniaque par rapport à votre foie, mais quand ça arrive, ça c'est pour les alcoolodépendants, hein, quand l'ammoniaque monte au cerveau, ça détruit le cerveau.
Mais William, vous en prenez toujours du crack, là?
Quand on me l'offre.
Mais parce que vous dites, je suis polytoxicomane, oui. je vois sur votre fiche, là, quand vous êtes arrivé sur notre écran d'auditeur, vous travaillez?
Je ne travaille plus actuellement, je suis handicapé.
D'accord. À cause de la drogue, de
non,
ce que vous avez fait?
Non, pas du tout, à cause de l'alcool. Parce que quand j'ai arrêté toutes les drogues, je suis en restauration, donc bon, voilà quoi.
William, c'est Elina, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est vrai que c'est tellement dur de s'arrêter. Personnellement, moi je ne vous cache pas, je suis passé à l'alcool, mais costaud quoi.
Oui,
après, je suis passé à un traitement médicamenteux, avec 3 fois par semaine des psychiatres, des addictologues, enfin, mais c'est vrai que vous êtes.
J'ai fait 17 cures.
Vous devenez addict d'autre chose après.
Mais un dérivatif, oui.
Maintenant, on peut dire, les gens qui vont répondre, ils vont dire, Elina, maintenant, elle est addict aux médicaments. Mais moi, je préfère être addict aux médicaments et être aux grandes gueules et faire tout ce que je fais aujourd'hui.
Oui, oui, ben, là, je suis très fier de toi, franchement.
Et vous arrivez à vous en sortir, William, ou pas, là, aujourd'hui, vous êtes aidé
J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, je suis tout seul dans un studio de 28 mètres carrés, je suis à Payol, quoi, comme on dit chez nous.
Mais tout perdu, c'est-à-dire même l'entourage, la famille.
Non, j'ai plus rien.
Ce qui est terrible, c'est avoir cette conscience-là.
À cause de l'alcool.
Ce qui est terrible, c'est avoir cette conscience-là, du mal qu'on se fait, et ne pas réussir
à s'en empêcher. Le mal que je me fais, il n'est pas né gratuitement.
Oui, je me doute bien. Il y a une histoire d'ailleurs.
On m'a fait mal, on m'a fait très mal.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Pendant mon enfance, on m'a fait très très mal.
Oui, je me doute qu'il y a une histoire.
Mais William, vous savez, moi qui ai auditionné un certain nombre de personnes, je suis allé sur tous les terrains où les gens prenaient du crack, tous derrière ont des histoires traumatiques, ignobles.
Bien sûr.
Et est-ce que vous a aidé? Est-ce que William, vous avez été vers des centres de désintoxication dans ce parcours?
Je l'ai dit, hein, j'ai fait 17 cures.
17 cures,
j'ai rencontré un professeur formidable. En plus, pendant la séance, une aide-soignante, je voulais prendre la parole. inopportunément et m'a demandé de me taire. Et le professeur, grâce à lui, m'a laissé m'exprimer. Ouais. Il m'a dit, monsieur Wartel, ah merde, j'ai dit mon nom.
Ah, c'est pas entendu.
Moi aussi, je m'en fous. Il m'a dit, mais bravo, bonne analyse, parce qu'on était entouré d'une vingtaine de cas comme le mien, et eux étaient dans le déni.
Vous avez quel âge,
mais on soigne pas le mal par le mal. Hein.
Vous avez quel âge, William?
51 ans.
Ouais. Vous êtes plus jeune que moi.
Bah oui, je suis un branleur.
Mais vous allez vous en sortir comme Elina.
Oui.
Bah, disons que bon, le diabète s'est installé et malheureusement, ça, c'est ce qui me fout en l'air parce que sinon je serais en train de travailler.
Vous avez quoi comme ressources aujourd'hui, William?
Là, pour l'instant, jusqu'au mois de mars, j'ai la hache à 900 balles. Quoi.
L'allocation handicapée, ouais.
Ouais, mais là, ils me redemandent un renouvellement et je ne sais pas si ça va passer. Ça m'étonnerait qu'ils passent parce qu'ils n'ont plus de rond.
Bah, écoutez, on peut vous mettre en contact avec Elina.
Tout
Elina,
à fait.
C'est OK.
Après l'émission, vous me donnez
après
son numéro.
Après l'émission, parce que Elina travaille encore beaucoup avec des gens comme vous, William. Si elle peut vous donner un petit coup de main, vous aider. Je suis sûr qu'Elina le fera volontiers.
Je le ferai avec plaisir, William.
Merci d'avoir été avec nous. On continue notre discussion là sur le crack, le nouveau fléau dans nos villes.
C'est bien qu'on nous appelle de ces villes justement.
Oui. C'est un vrai tour de France là du crack là qui s'installe. C'est Lille, Bordeaux, Rennes, Perpignan, Compiègne, Niort, Mâcon, Orléans. À tout de suite au 32-16 avec les GG. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée. Nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale. C'est Thomas Porcher, professeur d'économie qui nous accompagne. Bon, on voulait dans les GG vous parler du crack parce qu'on a découvert ces jours-ci que n'était pas circonscrit à Paris. Le crack est à la porte de la Villette et à la porte de la Chapelle et à ce qu'on appelle le jardin des Halles. Mais qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'étendait. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, en fait, des interventions, des opérations coup de poing menées par le ministre de l'Intérieur. Et moi, je suis allé un peu regarder sur les réseaux sociaux et je voyais des poches maintenant qui s'installent dans les villes, qui sont devenues des vrais points de deal pour aller chercher sa cam, pour aller chercher le crack. Des riverains qui commencent à être excédés. Je voyais du côté d'Orléans, je voyais du côté de Perpignan. Alors, ce sont des poches qui sont très très isolées. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met en place hormis les actions coup de poing? Parce que les actions coup de poing, finalement, tu dégages les dealers, mais 4-5 jours après, une semaine après, même moins d'ailleurs, tu les retrouves à un autre endroit. Puis maintenant, avec les portables, rapidement, tu sais ce qui se passe. Il n'y a pas de travail de prise en charge et de prise en main.
Entre Paris et toutes les autres villes de province, voire Bruxelles, parce que je travaille aussi pour Bruxelles, c'est que les camps, il n'existe pas des camps comme la colline de la Chapelle, parce que les gens, ils cuisinent eux-mêmes. Alors, je ne vais pas expliquer ici comment on cuisine. Tu vois, il suffit d'une petite cuillère et tu fais ta cuisine, quoi. Et je voulais vous dire, il y a un copain qui s'appelle Bertrand, il vit dans un bourg à Beille, un bourg à côté de Lorient, il en trouve du caillou.
Donc il y en a partout maintenant.
Donc il y en a partout, quoi. Non, mais en fait, c'est très compliqué parce que là, au moins avec les camps, on sait où ils sont. Mais en province, bon, à part que à Rennes, il y a de plus en plus de sans-abri, à Nantes aussi, à Lille aussi. Donc, à un moment donné, des camps vont se former. Mais avant qu'ils se forment, il faudrait peut-être mettre en place quelque chose, quoi, je sais pas.
Bah, tu parlais de la Bretagne, c'est Paul qui nous appelle de Saint-Brieuc. Bonjour, Paul.
Super.
Bonjour.
Bonjour, Paul. Vous nous appelez parce que vous vouliez témoigner. On dit les choses franchement, Paul. Vous êtes dealer. Carrément. Vous êtes dealer de crack.
Non, dealer, pas que, quoi. Je travaille aussi. C'est pour mettre les choses. C'est pour préciser quelques petites choses, en fait. On parle de crack depuis tout à l'heure et il y a une différence entre le crack et la free base. Les gens ne consomment pas que du crack. Le crack, c'est à Paris. En province, c'est de la free base et ça coûte très cher. C'est de la cocaïne, en fait. Donc, le prix au gramme est très cher. Et il n'y a pas qu'à Paris, en fait, où il y a de la cocaïne. Il y en a partout, effectivement. Depuis 2008, ça a augmenté. Les consommations ont augmenté. La production a augmenté. Il y a de la cocaïne partout. Et effectivement, de plus en plus jeunes, on fume la cocaïne sans savoir que c'est du crack, que c'est de la free base. On la consomme de cette manière de plus en plus et c'est une catastrophe, ouais.
Mais ce que vous appelez free base, c'est quoi?
Attends, dealer, parce que Alain, tu l'as présenté comme dealer, comme si c'était, je comprends pas, vous vendez de la drogue?
Je vends. Ça m'arrive, je vends.
Et vous en êtes fier?
Non, du tout. J'appelle pour une précision, c'est pas une fierté, quoi. Je consomme moi aussi, en fait. C'est pour souvenir mes consommations. Je suis pas là pour me faire juger en même temps. Je suis là pour apporter des précisions.
Enfin, on a voilà, le droit d'avoir un avis sur le fait de vendre de la drogue.
Je travaille aussi, c'est pour dire justement que tous les gens que je connais qui consomment travaillent. Il n'y a pas que
oui, mais vous dites que je vends de la drogue pour pouvoir consommer, donc visiblement le travail ne suffit pas.
Non, bah non, ça coûte très cher.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis cadre, j'ai un statut cadre.
Mais qu'est-ce que pourquoi vous en prenez? Mais
si vous en avez besoin, parce que j'ai une addiction, parce que je suis
addict. Il est cadre.
Je suis toxicomane en fait. Voilà.
Ah, voilà.
Alors, c'est apparu comment?
Il y a le dealer et puis il y a le fournisseur qui est au-dessus quand même.
Je suis là, c'est apparu depuis longtemps. Et puis il y a toutes les livraisons maintenant en fait. On ne fait pas que aller sur un site en fait. Matériellement, se déplacer quelque part. La
drogue, combien vous dépensez par jour pour la drogue?
150-200 euros au jour.
Par jour. Oui.
Paul, expliquez pour nos téléspectateurs qu'est-ce que ça veut dire freebase. Moi, je sais, mais je vous laisse expliquer.
La freebase, c'est quand on achète de la cocaïne et c'est quand on la ramène à l'état de caillou pour pouvoir la fumer.
C'est du crack, je suis désolé.
Et pour faire plus de quantité, en fait, peut-être aussi.
Non, c'est du crack de qualité supérieure. D'accord. En fait.
Mais expliquez-moi, vous vivez en Bretagne, c'est ça?
C'est ça.
Et ça se développe de plus en plus?
Depuis longtemps, en fait. Ça, c'est pas nouveau, en fait.
Comment vous l'expliquez?
Il y en a partout. Mais parce qu'il y a une production de cocaïne, enfin, c'est énorme, même dans le monde, en fait.
Oui.
La production de cocaïne c'est exponentielle, en fait.
Et ça continue, demande.
Physiquement, vous arrivez quand même à avoir une vie sociale, puisque vous travaillez.
Bien sûr.
Il s'exprime correctement. Hein, donc,
tous les jours, vous consommez de la drogue, alors?
Oui.
Ouais,
vous êtes marié, vous avez des enfants?
Des enfants, oui.
Et vos dents?
Vous avez déjà essayé d'arrêter ou pas du tout?
Bien sûr, j'ai fait des cures.
Il a fait
parce que, pardon, vous dites effectivement 150
cures,
à 200 par mois.
Des cures longue durée, hein, pas tout ce que propose les cures et de l'État, là, c'est 15 jours à Messie. Non,
on vous tient un peu au téléphone pour que la police puisse vous localiser. C'est
tout. Oh, il rigole.
Non, 150 à 200 par mois, ça fait du 5000 par. Enfin, 150 à 200 par jour, ça fait du 5000 par mois.
Ah oui, ça fait du 5000 par mois.
Donc, effectivement, il faut beaucoup d'argent.
Et Paul, vos dents, elles sont dans quel état?
Très bien, justement. On n'est pas tous. Moi, j'ai pas de problème d'alcool. On n'est pas tous.
Excusez-moi, le crack et les dents, ça va pas ensemble.
Ouais, mais je me lave bien les dents. Non, vraiment. Ah. Et moi, tous ceux que je connais ont tous une allure très correcte.
Ça fait quoi comme sensation, le crack?
On n'est pas tous à l'effet de zombie, en fait. Le crack, en fait, c'est une sensation dégueulasse, un peu presque. C'est comme dit tout le monde, c'est une sensation qu'on a aimée un jour et qu'on recherchera toujours, mais qu'on ne trouvera plus jamais, en fait. C'est une sensation de frustration plutôt qu'autre chose, en fait. C'est pas super agréable.
Mais ça vous donne quoi? Ça vous donne la pêche? Ça vous désinhibe?
Ça fait une petite transpiration qui dure quelques temps, en fait, qui dure 5, 10, 15 secondes, où on se sent effectivement ailleurs, léger, et puis qui est suivi tout de suite derrière par un craving, par un manque intense, quelque chose qui on a envie d'en reprendre tout le temps. Et il y a ce craving qui est dur à passer, quoi.
Mais Paul, physiquement, vous êtes comment? Vous n'avez pas de problème de santé? Vous pouvez.
Moi, je suis baisé, moi.
Vous êtes baisé?
Non, je suis bien, ça va.
Oui, mais vous avez quel âge?
42 ans.
Oui, je suis baisé, quoi. Donc,
BG, c'est beau gosse.
Oui, d'accord.
Ouais, et alors, ouais, donc ça, ouais, c'est, et ça
mais fait Paul...
combien de temps que vous consommez à ce rythme-là?
Pardon?
Ça fait combien de temps que vous consommez à ce rythme-là? C'est pas
discret. À ce rythme-là, vraiment? Moi, j'ai commencé la drogue très tôt, mais à ce rythme-là, ça fait 15 ans, quoi.
Ah ouais. Paul, par contre, moi je suis là aussi pour faire de la prévention.
Oui,
on n'est pas là non plus. Moi je suis ravi que vous soyez au téléphone.
C'est de la merde. Hein, que
non mais Paul, moi j'ai adoré le crack. Alors je vais vous dire la vérité.
Il y a un gros problème en France. Et effectivement, il n'y a pas les moyens de lutter contre ça. Je sais pas. C'est...
On Paul, peut rien si faire, vous arrêtez de consommer, vous arrêtez de vendre demain?
Bien sûr, mais c'est mon but, le but de tout toxicomane comme moi.
Non, mais c'est un revendeur quelque part.
On n'est pas fiers de continuer, quoi. Moi, je suis pas fier de me droguer.
Mais Paul, moi, je suis là pour faire aussi de la prévention. Et je voudrais vous le dire, je suis sûr que vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas. Une seule prise de cocaïne peut provoquer une crise cardiaque.
J'ai fait des OD de cocaïne. Ça, pareil, évidemment, quand on parle d'OD de cocaïne, on fait pas d'overdose de cocaïne, mais bien sûr que si. Le cœur s'arrête avec la cocaïne.
Oui.
Ben, on fait des odécoques. Mais après, dans la prévention en France, on est rendu, par exemple, dans les médecines du travail, dans la sécu, on est toujours en train de parler de l'alcool au travail. On parle très peu de la drogue, alors que ça a déjà envahi la société.
Vous avez raison.
Et on en parle très peu, quoi.
Et c'est pour ça, c'est ce que je disais, Paul, c'est qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est... On parle que des actions coup de poing policières, mais c'est un phénomène qui n'est pas pris en compte sociétalement.
Du tout.
Au sens de, il y a une vraie prise en charge de milliers de personnes aujourd'hui à avoir.
Demandez aux policiers, on a des contrôles d'alcool au volant ou de drogue.
J'ai fait des cures.
La part drogue est en train d'exploser.
Oui, mais je vais communiquer
maintenant.
Mais
il a fait
des cures, surtout pour l'alcool.
Il faut sortir d'une hypocrisie.
Non, le problème, Étienne Liebig l'a souvent dit. L'alcool, c'est autorisé. Donc, on peut faire des campagnes de prévention.
Tout à fait.
Ouais, le crack, c'est interdit. Donc, l'État ne fait pas de campagne de prévention puisque le produit est censé être interdit. Donc, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie est là. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement, faire des campagnes de prévention, notamment auprès des jeunes, etc., sur le crack, sur toutes ces drogues.
Il faudrait pas le nier.
Je suis d'accord.
Non, mais, Olivier. Tu crois que j'ai attendu l'État, moi, clandestinement, je le fais les directeurs qui veulent bien de moi à l'éducation nationale. Évidemment, je ne vais pas citer les écoles. Et vous savez, quand je dis aux gamins, vous savez, j'avais plus de dents et mes dents, elles étaient toutes marron. Je peux vous assurer que les gamins, ils flippent.
Paul, merci de votre témoignage. Enfin, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de vous en sortir.
Black Friday ou pas?
Bien sûr, d'arrêter, bien sûr. Et on souhaite à tout le monde de jamais commencer, en fait.
Vous voulez qu'on vous mette en rapport avec Elina aussi, si vous pouvez dialoguer, si elle peut vous donner des aider, si elle peut vous aider.
Ouais, je sais pas. Si elle veut un jour, là je vais prendre la route, mais en fait, mais oui, mon numéro.
Moi, je veux bien parler avec vous. Hein.
Ouais.
Mais là, par exemple, vous nous parlez, vous avez déjà consommé, Paul?
Mais oui, dès le matin, on consomme.
Mais surtout, vous ne proposez pas de cailloux.
On diabolise l'héroïne. Moi, j'ai jamais vu autant de gens avoir de problèmes que dans le crack, que dans l'héroïne.
Mais c'est une question peut-être stupide.
C'est
combien de fois par jour que vous en prenez?
De quoi?
Du crack.
Le crack, c'est variable, quoi. C'est un ou deux grammes. C'est surtout le soir, ça empêche de dormir. On a une vie de malade avec le crack. On mange plus, c'est une cata.
Ça veut dire, et par exemple, là, aujourd'hui, là, vous en avez pris de combien de fois, là, depuis ce matin?
Là, j'ai pris hier soir, en fait. Ce matin, j'ai pas pris.
D'accord.
Là, j'ai pris l'héroïne.
Et là, cet après-midi, là, vous savez à quelle heure vous allez en prendre?
À la maison, ouais, en se posant avec des amis, bien sûr, ça va être dans la soirée.
Ouais, peut-être un petit match avec un petit peu d'héroïne, ça va être sympa.
Ouais, un speedball, hein.
Ouf. Bon courage. Speedball, c'est héroïne, cocaïne, speedball aussi.
Bon courage à vous, Paul.
Merci, Paul. Mais surtout, toute
la question d'analyser.
Voilà, c'est que vous vous en sortiez. Et voilà, c'est là la responsabilité des pouvoirs publics aujourd'hui. C'est pas uniquement être dans le volet répressif. Mourad Boudjelal. Et dans le sport aussi. Dans le sport, il y a un non-dit, il y a un tabou dans le sport.
Bien sûr. Et moi, je suis totalement en phase avec ce qu'a dit Olivier. Il y a cette espèce de dire, comme c'est interdit, on n'en parle pas. Mais je pense que des campagnes de prévention, que l'État regarde la réalité en face, quoi. Et qu'une campagne de prévention, ça serait pas inutile.
Et qu'on en parle, oui. Enfin,
qu'on en parle. Sinon, c'est une réalité.
Comme le dit Alain, on en parle uniquement lorsqu'on dégage les gens en porte de la chapelle. Mais on parle pas précisément du phénomène de société.
On a fait un état des lieux du phénomène. On sait combien de Français fument du cannabis, et puis finalement, tout le monde s'est
déjà, accoutumé. Simplement, le fait de savoir que la France serait l'un des pays les plus consommateurs de cannabis. On peut imaginer que si on consomme beaucoup de cannabis, on doit aussi être l'un des pays les plus consommateurs de crack et d'autres drogues. Donc, il faudrait quand même se poser des questions. Pourquoi en France? Et ça, c'est, dans la campagne présidentielle, vous avez entendu un candidat, à en parler, non?
Surtout qu'aujourd'hui,
c'était un bon sujet.
S'aperçoit que ça touche des villes où tu te dis même si la drogue est partout, mais pourquoi est-ce que le fléau aujourd'hui dans des villes et des petites villes, des villes moyennes, quelle est l'ampleur du phénomène? Où est-ce qu'on installe des structures? Quelles structures on installe? Quels moyens on met? Parce que tu vois la psychiatrie est aujourd'hui devenue le parent pauvre complètement de la société. Il y a quasiment plus de psychiatres. Pour sortir les gens de la drogue, on a besoin de ces unités.
Il y a aussi quand même le volet business et délinquance. Je vous conseille d'ailleurs de lire cette semaine le point sur les nouveaux narco-trafiquants sont sans scrupules, qui gagnent des fortunes. Et sincèrement, quand on lit ce dossier, on se dit la bataille est perdue parce que ce sont eux les boss.
Ça serait bien de faire comme les cigarettes, de montrer à nos gamins le crack, l'héroïne, la cocaïne, comment on devient. Qu'il le voit, qu'il le visualise plutôt qu'il l'idéalise. Aujourd'hui, la cocaïne à l'image de la drogue qui rend créatif.
Alors que c'est dans le cinéma, voilà, etc.
Bien sûr. Il faut montrer la réalité de ce
qu'on a fait. On a fait la même chose
aujourd'hui. Quitte à avoir des images très dures.
Et les dealers. Oui, mais les dealers ont été un peu idéalisés aussi, si tu veux, dans certains films.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont riches.
Avec des baraques énormes, immenses, du pognon en veux-tu, en voilà. Toutes les stars qui viennent les voir.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, Pablo Escobar.
Il y a peut-être un imaginaire à renverser aujourd'hui.
Il y a eu des séries qui ont starifié tous ces gens-là. Ouais.